Bonjour, bon dimanche. J'espère que vous allez tous bien. Oui, nous aussi, on va bien. On commence à avoir des belles fleurs dans le jardin. Michou a ramené même ce matin le bouquet. Ah non, c'est pas celui-là. Il est ailleurs, je sais pas où. Bonne fête à toutes les grands-mamans. C'est bien. Il y a aussi la fête des grands-pères, non? C'est bientôt.
Hein?
C'est pas encore prévu.
C'est pas rentable.
Bon. Enfin, voilà. Nos grands-mamans ont été fleuries aujourd'hui. C'est bien, elles sont contentes. On les applaudit. Sans les grands-mamans, il n'y aurait pas de maman. Sans les mamans, on ne serait pas là. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi des papas et des grands-papas. On va lire Éphésiens chapitre 4, verset 23. Mais je ne peux pas me retenir de vous dire que ça y est, notre CD communautaire est sorti. Nous l'avons reçu. Nous avons les cartons. Cette semaine, les frères vont aller déposer tout ça à la SACEM afin que nos chants restent nos chants. Les chrétiens pourront les chanter, mais nous ne pourrons pas les vendre. Il ne faut pas faire des pognons dessus. C'est quand même normal, ils ont travaillé. Et voilà. Mais donc, vous pourrez acheter bientôt le CD sur Révélation Bible et aussi sur Révélation Bible Facebook, et puis on le mettra encore ailleurs. Il y aura des tas d'endroits où vous pouvez le trouver. Voilà, il est magnifique, vraiment magnifique. C'est Philippe Narès qui a fait les photos, elles sont très belles. Les chansons sont magnifiquement bien enregistrées. C'était enregistré dans le coin, vous savez, dans la région là où nous sommes, il y a beaucoup, beaucoup de musiciens, il y a des studios. Pour enregistrer les musiciens, on a trouvé, je crois, le meilleur studio. C'est parfait. Ça a mis du temps parce qu'ils ont voulu que ça soit parfait. Et là, ça y est, le petit bijou est arrivé. Moi, j'ai écouté au moins 50 fois chacun. C'est très, très, très joli. C'est très, très, très joli. Éphésiens, chapitre 4, verset 23. Alors, il y a des surprises dans le CD, vous allez voir, il y a des choses très surprenantes, très belles. Éphésiens 4, 23. Alors voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Il faut que votre cœur soit transformé. Il faut que toute votre attitude mentale et spirituelle soit changée. Voilà, ça c'est ce que l'apôtre dit aux chrétiens de son époque. Je pense que ça va aussi bien pour nous. Nous sommes des chrétiens, nous aussi, et il faut que ces choses se fassent. Alors, évidemment, si je parle de ces choses, c'est parce que je vis des choses en ce moment. Je reçois pas mal de courriers, surtout au travers de Révélation Bible Facebook, des gens qui me posent des questions, et je réponds, je prends du temps pour répondre à chacun. Je passe à peu près 2 heures par jour, hein. C'est quand même c'est fort, mais bon, c'est bien, je suis très content. Et je voulais vous dire que, faire un parallèle, vous savez, il y a toutes sortes d'endroits dans ce monde où on peut acheter toutes sortes de choses. Et il y a aussi toutes sortes de sites internet pour trouver toutes sortes de choses. Par exemple, pour ma part, en ce qui concerne les habits, les fringues, comme on dit, eh bien, je préfère acheter moins d'habits, mais d'acheter des habits qui soient bien, qui m'aillent bien, qui soient beaux, qui soient de bonne qualité. Vous allez me dire, c'est cher. Oui, c'est plus cher que si j'achète de la camelote qui va durer 3 mois, puis après ça va s'effiler, etc. C'est sûr. Il y a des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils achètent, ils s'en fichent, ils vont dans les farfouilles à deux balles, et ils portent leurs fringues quelques semaines, et hop, tiens, hop, ça se déchire aux coutures, ça se rétrécit au premier lavage, bon, c'est de la camelote. Eh bien, c'est pareil pour les chaussures, ils achètent des godasses en peau de sardine, et puis après, ils se plaignent d'être mal dedans, ils ont les pieds qui cuisent, ils ont les semelles qui se décollent, c'est moche, Hein? Alors, c'est vrai, c'est pas cher, mais quand on fait le calcul, c'est quand même mieux d'acheter une paire de chaussures de bonne qualité qui va vous durer un an et demi, plutôt que d'acheter 3 fois par an des chaussures qui sont de la... Finalement, ça devient plus cher d'acheter de la Kaamelott. Ça revient plus cher. Mais sur le moment, ça paraît pratique. Ah, c'est toujours une question. On en a toujours pour notre argent, en fait. Bon, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais pas tellement les moyens de m'acheter des belles voitures. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'achetais des bagnoles d'occasion. Et ben, on se rappelle, les plus anciens ont tombé en panne. Donc, ça nous bousillait une partie des vacances, quand on était en vacances. Mais ça nous bousillait aussi notre travail. Il fallait mettre la voiture au garage. Et puis il y avait toujours quelque chose qui lâchait, c'était toujours, il y avait tout ça. Et finalement, ça nous coûtait plus cher. Alors, un jour, j'en ai eu marre, je me rappelle toujours, c'était à Sarcelles, j'en ai eu marre, je sortais des flanades, je ne sais pas si vous connaissez les flanades à Sarcelles, et j'allais au Mont-de-Gif, là où nous avions notre communauté, et je passe devant chez Peugeot, et j'ai braqué brusquement, je suis rentré chez Peugeot, et j'ai dit, je veux acheter une voiture neuve. Je ne savais pas si même on accepterait que je puisse acheter une voiture neuve, parce que est-ce que c'était possible? Mais oui, c'est toujours possible. C'est comme à la FNAC, comme dirait mon ami Marc, c'est extraordinaire. On peut acheter les choses en 10 fois. Donc c'est pas Marc qui le dit, là je me moque un peu, il est contre ça. Mais voilà, pour s'acheter une voiture quand on est jeune et puis qu'on n'a pas les moyens, il y a toutes sortes de façons de faire. On peut économiser par exemple, mais là je pouvais pas économiser pour m'acheter une voiture, donc un crédit. Et ils sont très arrangeants. Et depuis que j'ai des voitures correctes, ben, j'ai jamais de panne, j'ai jamais de... C'est génial, c'est super. Donc ça me coûte moins cher en fait d'avoir une bonne voiture. On y attendra un peu pour certaines choses, et puis économiser, et s'acheter des choses de qualité. Coluche avait fait un très bon sketch là-dessus, il avait dit, vous avez des gens qui vont à la plage un mois sur des plages pleines de cailloux coupants, et voilà, ils souffrent des pieds parce qu'ils se coupent les pieds là sur... Il ferait mieux de se payer 3 jours sur une plage de sable fin. Évidemment, c'est payant, c'est un peu plus cher, mais au moins ils sont à l'aise pendant 3 jours, ils sont super bien, plutôt qu'un mois pas bien du tout sur des plages pourries où il y a des toutes sortes de saletés qui traînent. Enfin, c'était son... Et puis ça faisait rire tout le monde, mais n'empêche que bon, il avait quand même un petit peu raison. C'est vrai. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Eh bien, parce que sur le net, il y a de la religion de bazar à 2 balles. Il y a de la psychologie de bazar à 2 balles. Il y a des sites médicaux qui vous conseillent des âneries. Il y a des forums qui vous parlent de vos maladies d'une façon épouvantable. Il y a des sites alarmistes, crétins, il y a des chrétiens crétins même, qui vous parlent de la fin du monde, de complots, de toutes sortes de trucs. Là, dernièrement, il devait y avoir la Terre, il devait y avoir une météorite, c'était le 28 février, hein, qui devait s'écrabouiller sur la Terre. Ben voilà, il y a plein de chrétiens qui m'ont posé des questions à ce sujet. Je me dis, non, ça va pas arriver, c'est pas vrai. Ah bon, vous me rassurez. Je sais pas. Alors il y avait aussi un autre, un chrétien, qui disait, il va y avoir 3 jours de ténèbres sur la Terre. Alors qu'il donnait des dates. Alors il y en a qui mettaient, est-ce que c'est vrai, frère? Je dis, mais non, c'est des âneries, mais comment ça se fait que vous perdez votre temps à aller sur des sites aussi bêtes que ça? C'est pas possible quand même. Enfin, c'est pourquoi je vous prêche, soyez renouvelés dans votre intelligence. Ils vous promettent de rencontrer Dieu à condition que vous achetiez leur brochure où ils vous expliquent comment vous allez pouvoir rencontrer Dieu en 3 points. Non mais attendez, c'est... ou en 4, hein, ça dépend, il y en a, voilà. Non mais il faut être sérieux. Enfin, pour ma part, en ce qui me concerne, moi je les reconnais immédiatement, ces espèces de gens bizarres, de sites bizarres. Par contre, il y a une flopée de chrétiens qui passent des heures à regarder ces sites et ils s'empoisonnent littéralement, ils s'empoisonnent la vie avec des enseignements qui les culpabilisent, la plupart du temps ça culpabilise, qui les enferment dans la peur, qui leur bouchent l'horizon de la réalité Et pas mal d'entre eux me demandent, Michel, est-ce que c'est vraiment vrai que ce site machin raconte, et m'envoie le lien. Alors je regarde. Bon, je vais être un petit peu dur, mais il faut, il y en a certains, il faut les réveiller. Le seul moyen de les réveiller, c'est d'être un petit peu dur. Jésus est le roi des rois. Amen.
Amen.
Il n'est pas le roi des idiots. Il est le roi des rois. Est-ce que vous êtes un régnant dans votre vie, ou est-ce que vous êtes une victime consentante à aller toujours vers les trucs les plus médiocres, les plus minables, les plus stupides, les plus crétins? Non, mais c'est pas vrai. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Jésus ne vous engloutit pas en vous-même avec une morale castratrice. Je vous parle du Jésus de la Bible, pas du Jésus des religions. Je vous parle du Jésus de la Bible. Il vous ouvre l'intelligence en vous donnant une morale qui vous ouvre sur le réel, sur la vie pratique, et non pas sur des élucubrations à la noix de coco, des stupidités, des trucs d'abrutis qui... Jésus vous donne une morale qui vous libère des pièges qui vous entravent. Jésus ne vous propose pas d'entrer dans une introspection solitaire et masturbatoire. Jamais, jamais, jamais. Jésus donne un enseignement qui ouvre des portes sur votre avenir, un enseignement qui ne vous coince pas dans votre passé. Voilà le Jésus que j'aime. Beaucoup de gens me disent « j'aime Jésus », je discute un peu avec eux, mais je m'aperçois qu'on ne connaît pas le même, hein. C'est pas le même Jésus. Jésus ne vous lie pas avec des croyances invraisemblables. Toujours, il y a un frère qui me dit « j'ai eu un songe qui me disait que ceci et cela, et puis ensuite j'ai vu un prophète qui m'a dit la même chose, ça confirme et tout. » Mais sa femme, elle avait un prophète qui lui a dit exactement le contraire. C'est ballot. Oh, c'est ballot. Mais lisez donc votre Bible, vous allez y trouver ce qui est juste, ce qui est l'équilibre. Jésus vous délie, ne vous lie pas. Il ne colle pas sur vous une étiquette qui vous emprisonne dans un club. C'est invraisemblable, ce truc-là. Il te dit, tu as des fragilités. Il te dit, ok. Et il te dit, et alors ? Et alors, qui n'en a pas ? Qui n'a pas de fragilité ? Tes fragilités, c'est ce qui te caractérise, c'est ce qui fait que tu es différent des autres. Le savant mélange de tes qualités et de tes défauts font que tu es la personne que tu es. Tes sentiments, tes caractéristiques émotives ne sont pas des défauts. Tu peux t'en servir comme des qualités, tu peux les transformer en qualités. Tu n'es pas un problème, tu as un problème. Et alors ? Alors je vais redire la phrase et vous allez dire, même si vous êtes dans votre voiture en train de m'écouter, ou si vous êtes dans votre salon en train de m'écouter, ou dans votre cuisine, ou je ne sais pas où, vous allez dire avec moi. Alors je dis, tu as un problème ? Et dites avec moi, et alors ? Tu as un problème en face duquel tu peux agir pour te protéger, pour te défendre aussi s'il y a vraiment besoin de se défendre. Tu es une âme, c'est-à-dire tu es un être vivant. Ce qui est vivant, c'est en mouvement. Ça bouge, ça change tout le temps. Ce que tu es ne se limite pas à ton passé et à ton présent. Ce que tu es et dans ton avenir, parce que tu es en mouvement vers ton avenir, vers ton identité divine. Tu as le pouvoir de rendre réel ce que tu veux être. Tu es croyant ? Super ! Alors crois que Jésus a effacé les mauvaises choses que tu as faites. Ça, c'est du passé, c'est fini. L'apôtre Paul dit, tournant le dos au passé, je vais vers l'avenir, et voilà. Jésus n'est pas fâché contre toi, Et il attend que tu transformes ta croyance, tes croyances en action. Je suis croyant. Et alors, ça change quoi dans ta vie que tu sois croyant si tu agis pas selon ta croyance? Ça sert à rien d'être croyant. Sois plutôt un païen. Au moins, tu vas rigoler. Tu es croyant, alors agis selon ta croyance, mais pas selon n'importe quelle croyance, selon la croyance que donnent Jésus-Christ et les apôtres. Alors certains viennent me balancer l'Ancien Testament, oui, l'Ancien Testament, les femmes adultères, il faut les lapider et tout. Et Jésus est venu changer tout ça, c'est fini tout ça. Maintenant, il dit, celui qui n'a jamais péché, il lui jette la première pierre. Tout a été bouleversé avec Jésus, c'est ce Jésus-là que j'aime. L'Ancien Testament, c'est une autre histoire. C'est autre chose. C'est le même Dieu, mais qui s'adressait à d'autres personnes, à une autre époque. Et maintenant, c'est différent. Avec Jésus, c'est devenu différent. C'est une nouvelle alliance qui a été faite dans son sang. Ça lui a coûté sa vie. Alors, les religieux adorent culpabiliser les gens parce que c'est leur fonds de commerce. Jésus nous met devant la réalité tout simplement. Oui, tu as péché, et dites avec moi, et alors? Tu as péché, et alors? Il t'a pardonné, non? C'est pas écrit qu'il t'a pardonné? Crois-le, tu dis que t'es croyant, ben crois que tu es pardonné. Arrête de demander pardon, crois qu'il t'a pardonné. Dis simplement à Dieu, à mesure, chaque jour, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Demande pas pardon, il t'a déjà pardonné. Simplement, tu lui avoues ce que tu as fait, et puis voilà. Humblement, et il est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier de toute iniquité. T'as pas à ramper devant lui pour le supplier de te pardonner. C'est déjà fait. Si t'es croyant, c'est ça que tu crois, parce que c'est ça qui est écrit dans la Bible. C'est pas tous ces trucs de te dire « Ah oui, t'as péché parce que t'as une hérédité, t'as un lien ancestral, il faut que tu viennes à la prière, on va délier ça au nom de Jésus, mais il faudra au moins 10 séances. » Mais c'est quoi ces trucs? C'est de la religion, ça c'est impardonnable. Ça c'est impardonnable, ces religions à la noix de coco. C'est des religions à deux balles. Et des sites qui parlent de ça, il y en a des milliers. Tu as péché, et alors, il t'a pardonné. Tu n'es pas obligé de vivre dans ton passé, dans ta culpabilité in aeternam. Écoute ça. Le diable, il s'amuse à t'appeler par le nom de tes péchés. Il s'amuse à t'appeler par le nom des failles que tu n'aimes pas en toi. Il y a des choses que tu n'aimes pas en toi, et puis il s'amuse à t'appeler par ce nom-là. Il t'appelle alcoolo, il t'appelle pédé, il t'appelle adultère, il t'appelle menteur, il t'appelle pauvre naze, il t'appelle crétin, il t'appelle raté, voilà. Par contre, Jésus, lui, il t'appelle par ton nom, c'est très différent. C'est très différent. T'es un alcoolo? Et alors? T'es un pédé? Et alors? T'es un menteur? Et alors? Tous les pécheurs iront en enfer, même les vieilles mémères médisantes qui vont à l'église tous les dimanches et qui vont brûler des cierges, si elles sont médisantes, elles iront en enfer, la même chose. Heureusement que Jésus est venu et nous a pardonné et purifié de tout ça, non? Mais crois-le! Oh oui, mais je sens encore en moi cette tendance. Et alors? Tu vas travailler là-dessus, avec son aide. Mais si tu fais rien, comment veux-tu qu'il t'aide? Fais devenir ce que tu veux devenir. Ok? Hier, quelqu'un me disait, « Oh, c'est pas rigolo de vieillir. Ben, » c'est certain. Il y a des inconvénients. On en sait quelque chose, hein? Et alors? J'aurais pu mettre comme titre de ma prédication, et alors? Il y a des inconvénients, et alors? Mais je vous assure, il y a aussi des inconvénients à être jeune, c'est pas vrai? Il y a des inconvénients à être jeune. Eh oui, il y a des inconvénients à être moche. mais il y a aussi des inconvénients à être beau. Je vous assure qu'il y a des inconvénients à être beau. Je sais quelque chose, je suis très beau. Ne te focalise pas sur les inconvénients. Si tu es comme moi, vieux, ben sois un vieux qu'on aime bien rencontrer, qui est rigolo, qui se plaint pas sans arrêt, qui rigole même de ses maladies. Moi, je permets pas aux gens de rigoler de mes maladies, mais par contre, moi, je rigole de mes maladies et je fais rire les gens de mes maladies. C'est pas vrai, les frères et sœurs? C'est ce que je fais. On se déglingue, physiquement, on se déglingue. La tuyauterie marche plus bien, il y a des tas de trucs qui marchent plus. Et alors? On le sait depuis toujours. Quand on était gamin, on voyait bien qu'il y avait des vieux, puis on savait bien qu'on allait devenir vieux. Vous ne le saviez pas? Bien sûr qu'on sait. On a eu le temps de se faire à l'idée qu'un jour on allait devenir vieux. Tu pensais que tu allais rester jeune toute ta vie? Alors là, vraiment, tu es un idiot. Hein? Écoute bien ça. Tu n'existes pas une fois pour toutes. Tu changes tout le temps. Alors, tu as le choix pour changer en mal ou pour changer en bien. Oh, mais Michel, c'est tellement simpliste ce que tu dis. La vérité, elle est simple. La vérité, elle est simple. C'est un choix qui t'engage, qui t'oblige à soit rester sur place, à te recroqueviller sur ce que tu es maintenant et sur ce que tu as été avant et ce que tu es encore maintenant, ou c'est un choix qui t'oblige à te prendre en main pour trouver quelle sorte de personne tu veux être vraiment. Tu sais, j'ai eu une vie merveilleuse. Ceux qui ont lu mon bouquin, l'oracle, ils savent, ceux qui me connaissent, ils savent, j'ai eu une vie formidable. J'ai vécu à 200 à l'heure, j'ai fait des choses que peu, j'ai vécu des trucs extraordinaires. J'ai voyagé dans plus de 70 pays, j'ai rencontré toutes sortes de gens dans toutes sortes de situations, des religions différentes. J'ai vu des choses magnifiques, j'ai vu des choses très moches, j'ai vécu vraiment pleinement. J'ai eu une vie extraordinaire. J'ai vu les extrêmes, j'ai vécu aussi les extrêmes. J'ai rencontré les meilleures personnes du siècle passé, du siècle présent. J'ai rencontré vraiment les meilleurs, les plus grands, les gens les plus extraordinaires, les plus inspirants. Mais j'ai aussi rencontré, j'ai même vécu pendant des années avec des vrais cons. C'est vrai. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est vrai. J'ai connu les plus intelligents, mais j'ai connu les plus cons aussi. Et alors, je n'existe pas dans le passé, ni dans mon bon passé, ni dans mon mauvais passé. J'existe dans ce que j'ai à créer à partir de la réalité telle qu'elle est maintenant. Vous voyez? Vous savez, les gens qui font de l'introspection refusent de s'engager dans la confrontation. Ils restent en eux-mêmes, puis ils se rongent comme ça. Pourtant, la vie, elle est comme ça, parce que la vie, c'est un changement continuel. Si on n'est pas confronté à des forces contraires, eh bien, on n'avance pas, on reste là où on est, et puis on ne peut pas se fortifier. Donc, on reste, voilà, comme ce pot de fleurs, c'est très joli, mais voilà. C'est autre chose quand même qu'un pot de fleurs. Tu as quelque chose à faire, tu es attendu par ce qui va t'arriver. Tu es attendu par ce qui va t'arriver. Arrête d'attendre passivement que demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, ou à la Saint-Glinglin, un truc va t'apporter la solution. Non, arrête de faire ça. C'est à toi de te débrouiller, et si tu le fais, Dieu bénira l'œuvre de tes mains. On va lire dans Deutéronome 2, 7. Deutéronome 2, 7. En effet, l'Éternel ton Dieu te bénit dans tout le travail de tes mains. Voilà ce qui est écrit. Moi, je crois ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie rien d'autre que ce qui est écrit. Arrêtez d'aller chercher des significations des deuxième degré, des troisième degré et de la théologie à n'en plus finir qui sert à rien du tout. Ça signifie ce qui est écrit, ni plus ni moins. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Ça veut dire que Dieu bénit l'œuvre de tes mains, ton travail, ton action. Ça veut dire aussi que si tu ne fous rien, Dieu ne peut pas bénir rien. Tous les gens que Dieu a bénis et qu'on trouve dans la Bible, et puis tous les autres, tous ceux que je connais qui sont bénis, qui ont une vie extraordinaire, tous ces gens-là, c'était des travailleurs, ceux de la Bible. Regardez, c'était des gens qui entreprenaient, qui restaient pas là à attendre. Un jour, il y a un frère qui vient vers moi en Afrique et qui me demande de l'argent parce qu'il a eu une mauvaise récolte et tout. Alors, je lui demande combien il lui faut, il me dit, alors je lui donne la somme, et puis après, le frère, il s'en va tout content, et je me suis fait engueuler par Nicolas. Nicolas me dit, tu aurais dû lui dire que tu allais réfléchir, et puis moi, je t'aurais dit la vérité. Ce type, il ne fout rien. Il ne s'aime pas. Il bouffe tout, il a bouffé toute sa récolte de l'année passée, il n'a rien semé. Donc il a rien, il récolte rien, c'est normal. Il ne fout rien, c'est un flemmard. Ah, alors ça, pour prier, il prie. Mais comment voulez-vous que Dieu bénisse ce qu'il n'a pas semé? Il faut arrêter d'être idiot. Hein? Adam, c'était un cultivateur, donc c'était un entrepreneur, il réfléchissait. Il avait observé quand c'est le meilleur moment de semer, d'élaguer, ou je ne sais pas quoi, moi. Abraham, c'était un éleveur. Joseph, c'était un gérant. Moïse, c'était un berger. Néhémie, c'était un échanson. Je vois bien mes copains avec lui. Je ne sais pas si le vin à l'époque était aussi bon que les petits bourgognes de Paris. Hein, je sais pas. Jésus, c'était un charpentier. Pierre, c'était un pêcheur sur le lac. Paul, c'était un fabricant de tentes. Dieu ne bénit pas les paresseux et les assistés. Hier, j'ai regardé une vidéo, c'est une dame, c'est pas une Suédoise, hein, c'est un peu plus français que ça, une Africaine, quoi. Elle vit en France, elle dit, mais c'est la vidéo, elle dit, hein, vous pouvez la chercher, vous allez la trouver. Elle dit, oh, j'avais trouvé un travail, mais j'ai pas pu aller travailler parce qu'accidentellement, je suis tombée enceinte. Accidentellement. Alors elle dit, mais c'est pas grave, comme ça je peux m'occuper de mes enfants, puis je touche déjà l'allocation, alors j'ai acheté ce canapé, un magnifique canapé, j'ai acheté ce grand écran LED, un grand écran de télévision plat pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer avec leur console, cette belle table basse, c'est formidable. Des moments quand même, j'ai l'impression de gaspiller un peu, mais ça me fait tellement plaisir de dépenser tout mon argent et tout. Et puis, la personne qui l'interviewe dit, mais et pour votre loyer, comment vous allez faire et pour payer les charges? Elle dit, oh, mais ça, il y a d'autres allocations. Je ne me fais pas de soucis. Ça sera payé. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Dieu ne bénit pas les assistés. Je suis désolé. C'est pas parce que c'est une Africaine aussi. Il y en a plein d'autres, mais enfin bon. Tu n'as pas le moral. Travaille sur ton moral. Travaille sur ton moral. Cesse de lire Gala. Cesse de lire Voici. Arrête de lire Ici Paris. Cesse d'écouter Claude Inierski. Arrête d'écouter Morgan Priest et tous les autres alarmistes qui viennent te raconter des bobards à deux balles, qui te prédisent la fin du monde, et puis ils te donnent le jour, et puis après ils te disent, ah ben non, j'avais oublié dans mon calcul l'âge du chef de gare que je devais additionner autour de taille de ma concierge. Non mais ça commence à bien faire. Cesse de lire tous ces trucs qui concernent la maladie, ta maladie, sur Internet. Arrête de faire ça. Tu t'empoisonnes. Je vous donne un petit exemple qui m'est personnel. Le 28 janvier, de cette année, j'ai subi une lourde opération. Je suis resté plus de 6 heures sur la table d'opération. Et toutes les prédications que vous avez entendues, les 6 prédications que vous avez entendues à partir du 28 janvier, étaient des prédications préenregistrées que j'avais données à Stéphane et qu'il a mis petit à petit sur Révélation Bible. Donc vous n'avez rien su du fait que j'étais à ce moment-là à l'hôpital, en réanimation, etc., etc., etc. Le chirurgien, avant de m'opérer, m'a dit, vous savez, il y a un club de rencontres où les gens qui ont subi l'opération que vous allez subir témoignent de ce qu'ils ont vécu. Voulez-vous que je vous y inscrive ? Je dis, ah non, surtout pas ! Non, je veux pas ! J'ai répondu, non, le professionnel, c'est vous. Vous savez ce qu'il faut faire, vous allez le faire parfaitement, Dieu va bénir l'œuvre de vos mains, je vous fais confiance, je fais confiance à Dieu qui va vous guider pendant cette opération, et j'ai pas besoin d'écouter monsieur Tartampion ou madame Tartampion qui va me raconter comment ça lui a fait mal, et combien de temps ça a duré. Je m'en fous, je me mets entre les mains de vous qui êtes un professionnel de la chose, et entre les mains de Dieu qui est celui qui tient ma vie. Et il a souri, il a dit, ok, monsieur, j'entends tout, allez bien. Je dis, ben voilà, c'est parfait. Et tout va bien. Tout va bien, madame la marquise. Tout va bien. Pourquoi écouter des gens qui ne savent pas, ou qui ne comprennent pas bien, ou qui disaient... J'étais juste jeté un coup d'œil pour voir. Eh bien, sur Internet, juste un coup d'œil, j'ai cliqué sur le nom de l'opération que j'ai subie, et j'ai vu que j'ai 5 ans d'espérance de vie. Quel con celui qui écrit ça! C'est pardon, je dis un gros mot, mais je trouve pas d'autre. Moi, je pourrais dire, quel idiot, mais non, c'est pas assez fort. Bon, celui qui a écrit ça, c'est un médecin. Alors, j'ai demandé à mon médecin, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ah oui, c'est encore le vocabulaire des médecins, il écrit comme s'il écrivait à un médecin. Ça veut dire que, à partir du moment où vous avez eu cette opération, pendant 5 ans, il faut vous suivre parce que il peut y avoir des problèmes. Et pendant ces 5 ans-là, il faut vous suivre vraiment parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se faire suivre et qui rechutent. Et puis s'ils rechutent, ben ils meurent. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc pendant 5 ans, vous allez être suivi. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre seulement pendant 5 ans. Allez sur Internet, lisez les trucs des médecins ou des forums où il y a des bonnes femmes qui viennent raconter leurs trucs et leurs machins. Ça va vous désespérer, mais si vous aimez ça, mais allez-y, vous avez raison, faites-le, vous êtes plus malin que moi. C'est bien, vous avez raison, faites-le. Pourquoi écouter des gens qui s'expriment mal ou qui ne savent pas ou qui se sont... pour le spirituel, autoproclamé pasteur ou prophète, quand on pense que pour être pasteur en France, il faut au minimum 5 ans d'études, et puis vous avez des gueulus qui sortent de je ne sais où, et qui se proclament pasteur, voilà, du jour au lendemain, parce qu'ils ont trouvé des bouquins, qui viennent vous les réciter sur Internet. Non mais c'est quoi ça? Et vous les écoutez, et vous dites, ah, oh, ça m'a beaucoup parlé. Ouais. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Et la Bible dit, c'est par l'inspiration de vos pensées que votre intelligence sera renouvelée. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 23. Il dit, il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Comment vous allez pouvoir avoir une inspiration dans vos pensées qui vous renouvelle? Eh bien, en lisant et en écoutant des choses inspirantes, venant des meilleurs, et non pas Enfin, si ça vous intéresse tellement de savoir ce que Laetitia Hallyday est en train de faire, mais alors nourrissez-vous de ça, ça va certainement pas vous édifier les pensées. Bon, on peut se distraire à lire ça un moment pour rigoler, mais n'y passez pas votre vie, s'il vous plaît. C'est par l'inspiration de vos pensées que votre intelligence sera renouvelée. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Donc, inspirez vos pensées avec de bonnes choses, avec les meilleures choses. Pour que vous trouviez l'équilibre dans votre vie qui a été malmenée par des épreuves, par des maladies, par les gens, par les religieux, par des psychologues de bazar. Et alors, vous avez été malmené par tout ça, mais moi aussi. Et alors ? Ben, il est temps de changer maintenant. Inspirez vos pensées avec des bonnes choses. Votre centre, votre cœur doit être transformé, et c'est pas en demandant à Dieu que ça va arriver. Votre attitude mentale doit être transformée. Et Paul dit comment le faire. Il dit pas allez et faites un jeûne d'Esther pendant 3 jours sans boire et sans manger à 39 degrés à l'ombre là-bas en Afrique, et puis ensuite soyez transportés d'urgence à l'hôpital parce que vous êtes complètement déshydratés comme la plupart. Non, mais c'est des idioties religieuses, crétines, idiotes. Dieu ne fera pas ce que vous pouvez faire vous. Paul dit comment faire pour avoir une attitude mentale transformée. Il le dit, chapitre Éphésiens 4, 23-25, je lis tout. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur, c'est-à-dire votre centre, soit transformé et toute votre attitude mentale, spirituelle changée. Habillez-vous de neuf. Mettez les vêtements propres d'une vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la justice et la sainteté que produit la vérité. Les vêtements propres dont il parle là, c'est les vêtements propres de la vie nouvelle. C'est une image pour vous dire, revêtez-vous de choses neuves, de choses propres, de choses belles, d'habits neufs. Qu'est-ce que c'est, ces vêtements propres de la vie nouvelle? Eh bien, c'est, il le dit, une vie conforme à l'image que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Jésus-Christ avait une attitude mentale absolument parfaite. Et c'est une image, c'est un modèle, il nous dit, copiez ce modèle. C'est lui votre modèle. Pas le Jésus doucereux ou le Jésus légaliste que nous présentent les religions. Là, il y a un livre qui est sorti, je vais aller l'acheter mercredi, qui s'appelle Sodoma. C'est un journaliste qui a interviewé plus de 1500 personnes au travers du monde et surtout au Vatican pendant, je crois, 4 ans. Et paraît-il, il y aurait, c'est de graves problèmes dans cette église. Et le pape a fait un discours dernièrement que j'ai écouté. Il dit « Méfiez-vous de ces gens qui sont sévères et qui sont implacables et qui condamnent parce qu'ils le font quand ils sont en public, mais quand, par derrière, quand ils sont seuls, ils vivent dans la débauche. » Voilà la vérité. Voilà la vérité. Moi, je vous recommande de lire ce livre, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Mais j'ai écouté l'interview de ce bonhomme, et c'est très intéressant. Ces espèces de présentateurs de Jésus légalistes ou doucereux, il faut un équilibre. Le Jésus de la Bible, il est la vérité, et ce qu'il dit, quand vous lisez ce qu'il dit, eh bien, vous vous nourrissez. Et ça produit en vous une vie nouvelle. Vous savez, ce qu'on mange, ça a une influence sur nous. Hier, j'ai mangé de la saucisse au chou. Allez demander aux Suisses qu'est-ce que ça fait de bouffer, parce que j'ai pas mangé, j'ai bouffé la saucisse au chou. Allez demander aux Suisses qu'est-ce que ça produit. Je vous fais pas de dessin. Mais je pense que vous m'avez compris, la nourriture qu'on prend a une influence sur nous. Quand vous prenez une nourriture spirituelle saine, ça produit en vous la sainteté, la pureté, la beauté, la réussite, qui est le produit de la vérité que vous avez mangée, dont vous vous êtes nourri. Les gens qui se nourrissent des infos à 2 balles sur BFM TV ou TF1, ah j'adore les informations à 13h, alors on vous donne les grands titres, voilà, il y a 2-3 trucs importants, puis après c'est Madame Trouchu de Gourmand-Jules les machins là-bas qui avait une nouvelle tarte aux pommes à la façon de sa grand-mère. Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est des informations ça? Les gens qui se nourrissent de ces infos à 2 balles et contradictoires et qu'on ne sait plus où on en est, ou qui se nourrissent de superstitions, deviennent des gens confus et restent des gens confus. Et il faut que vous choisissiez quelle sorte de vie vous voulez. C'est à vous de choisir, ce n'est pas Dieu qui va choisir pour vous. Et moi, je suis là pour vous donner une direction, pour vous montrer. Je suis un peu comme un panneau indicateur, je vous montre une direction.
ça va, si vous faites ce que je vous dis, ça va occuper tout le reste de votre vie. Vous n'aurez plus de moments où, assez de moments pour vous plaindre. Vous verrez, c'est parfois un peu déconcertant si vous faites, si vous commencez à faire ce que je vous dis là. C'est parfois déconcertant parce que ça nous oblige à quitter notre petite vie lisse d'habitudes. On a des habitudes. Si vous prenez conscience que ce que je vous dis est vrai, ça va être au début un peu douloureux parce que ça va impliquer de vous mettre en mouvement. Au lieu de rester englué dans votre inconfortable et maladive habitude de vous plaindre de votre sort continuellement. Ça va vous obliger à sortir de ça. Cessez de vous placer en victime. Devenez l'observateur de ce qui est la réalité et commencez à faire ce qu'il faut pour devenir la personne que vous voulez être. Oui, mais je veux faire la volonté de Dieu. Ben, la volonté de Dieu, c'est justement ça. C'est d'agir par la foi, de faire. Il faut d'abord que tu réfléchisses. Tu veux être quoi? Tu veux faire quoi? Oh, mais le Seigneur ne m'a pas dit. Bon, ben, continue à attendre que le Seigneur te le dise. J'ai connu une fois un vieux monsieur, je suis allé le trouver. Et puis j'ai offert, avant j'avais offert mon livre, et quand je suis arrivé, il m'a embrassé, il pleurait, il avait la morve au nez, et il me dit: ah frère, c'est extraordinaire votre vie, c'est tout ce que j'aurais voulu faire, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Eh ben je vais vous le dire, parce qu'il a demandé à Dieu toute sa vie, faut faire quoi? Mais il savait ce qu'il fallait faire, puisque quand il a lu mon bouquin, il a vu que c'était ce qu'il avait envie de faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il est bête, parce qu'il est religieux, parce qu'il attend que Dieu lui parle. Mais arrêtez d'attendre que Dieu vous dise tout ce que vous avez à faire.
Le Seigneur te parle, va au marché de Saint-Ouen, parce que les melons sont meilleurs qu'au marché de Saint-Denis.
Moi je connais des andouilles comme ça, hein. Tu te rappelles chérie? On en a connu, hein.
Mais ça fait peur. Ça fait peur.
Cessez de vous placer en victime. Observez ce qui est. Commencez à faire ce qu'il faut pour devenir la personne que vous désirez être. Dieu attend ça de vous. Il ne va pas le faire à votre place. Jamais. Jésus est venu sur cette terre, il nous a montré comment doit agir un homme. C'est la même chose pour les femmes, parce que c'est les mêmes principes, c'est les mêmes choses. Homme-femme, c'est pareil. Il nous a montré comment faire. Ensuite, il a dit, tout ce que j'ai fait, enseignez-le aux gens, afin qu'ils le fassent aussi. Et puis, il est monté au ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ben, il est toujours assis. Et il regarde si on fait ce qu'il a dit qu'il fallait que nous fassions. Et je vous assure, il doit être terriblement déçu en ce moment en voyant des tas de gens prier pendant des heures et des nuits de prière qui n'en finissent pas. Et ils sont en train de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est de la folie. Habillez-vous de neuf. Habillez votre âme, c'est-à-dire votre être, avec le meilleur, avec ce que Dieu dit dans la Bible. Et vous pourrez constater, comme l'a constaté le roi David, il a dit, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais David était un roi, ce n'était pas un assisté. Alors choisissez quel sorte de personne vous voulez être. Régnant sur votre vie, ou attendant toujours les allocations familiales, ou attendant que, je ne sais pas moi, la Saint-Glinglin arrive pour vous apporter un pseudo-miracle, ou je ne sais pas. Choisissez ce que vous voulez. Moi, je vous le dis avec mon vocabulaire, avec un peu de dureté, mais bon, voilà, je vous le dis, et puis vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, ceux qui font ce que je dis, ben, ça marche pour eux. Ça marche pour eux. Alors, allez-y, faites-le, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs et de leur montrer qu'il faut qu'ils trouvent cet équilibre et qu'ils le mettent en pratique afin d'avoir une bonne vie abondante telle que tu l'as promise à ceux qui t'obéissent et qui agissent. Merci Jésus. Amen. Au revoir.